Moi, ce que je veux, c'est ma cathédrale.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le troisième épisode de notre série consacrée cette semaine à un phénomène du Moyen-Âge. Comment est venu le temps des cathédrales? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre avec Mathieu Lourse, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales et du patrimoine religieux. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment au début du XIIe siècle, un abbé novateur, ambitieux, l'abbé Sugère, a transformé son église romane, l'abbaye de Saint-Denis, en l'agrandissant, l'enrichissant, en l'ouvrant vers plus de lumière. La première église gothique était née.
Seigneur, que ta maison sera belle. Cet élancé de piliers, ces croisées d'ogives. Quel renouveau dans l'architecture, n'est-ce pas ?
C'est donc un abbé qui a donné le coup d'envoi. Mais ce sont les évêques des villes qui, à partir du XIIe siècle en France, prennent le relais pour poursuivre le grand mouvement de construction des cathédrales telles que nous les connaissons aujourd'hui. En trois siècles, plus de 80 cathédrales dites « gothiques » vont s'élever en France, surtout dans sa moitié nord. Les nombreux archevêques et évêques qui, en 1144, avaient été invités par l'abbé Sugère à la consécration de son église, les évêques et les archevêques de Reims, Rouen, Sens, Canterbury en Angleterre, Chartres, Soissons, Orléans, Beauvais, Auxerre, Arras, Chalon-sur-Marne, Évreux, Meaux, Senlis et j'en passe, ont tous été éblouis par la beauté lumineuse et si particulière de cette nouvelle église. Et en rentrant chez eux, en regardant leur vieille cathédrale romane démodée, qui entre nous devait être très belle, tous ces évêques ont eu l'idée de construire à leur tour une nouvelle cathédrale, la leur, forcément plus grande et forcément plus belle que celle de leurs voisins.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Rien n'est trop beau pour la maison de Dieu. Il y va du prestige de notre diocèse.
Nous trouverons les fonds.
Comme construire une cathédrale coûte cher, en effet, tout bon catholique est prié de mettre la main à la bourse. Les plus modestes donnent une pièce, une médaille, voire un âne ou un veau quand ils le peuvent. Mais comme ça ne suffit pas, des quêtes sont organisées pour recueillir des dons. En échange, le donateur reçoit le pardon pour ses péchés. Pour faire monter les dons, les quêteurs n'hésitent pas à exhiber des reliques de saints martyrs. C'est de cette manière, dit-on, que la construction de la cathédrale de Cologne en Allemagne a pu être financée grâce aux reliques des rois mages, ou prétendues telles. Un chantage juteux au salut de l'âme, ce qu'on appelle les indulgences, qui vaudra à l'Église beaucoup de critiques. Lorsque l'évêque lance la construction d'une cathédrale, il le fait pour la gloire de Dieu, pour le salut de son âme et celui de ses ouailles, mais aussi pour son prestige personnel, un prestige qui rejaillit sur la ville et ses habitants. Le chantier est aussi une source de revenus évidente pour les artisans qui y travaillent et les bourgeois qui y investissent des capitaux. Et la cathédrale n'est pas qu'un lieu pour prier. Comme c'est souvent le seul bâtiment en pierre du centre-ville, tout autour ce ne sont que ruelles sales et bâtisses insalubres en bois, c'est là que l'on se réunit, à l'abri des intempéries ou des bandes armées. On y conclut des affaires, on y drague, on y joue des spectacles, on y croise des chiens et des cochons, des enfants y jouent, on y fait la manche, des pèlerins y dorment sur la paille, occasionnant, je cite, « inconvénients, infections et ordures », dit un chroniqueur en colère. La cathédrale, église sacrée, est aussi un lieu profane. Mathieu Lourse, concrètement, qui passe la commande de la construction d'une cathédrale ?
C'est l'évêque ou bien les prêtres qui desservent la cathédrale, qu'on appelle les chanoines, qui eux aussi, collectivement, forment le chapitre. Et ils possèdent aussi des biens et des fiefs. Et l'immense majorité des financements de la construction de la cathédrale, c'est le clergé. Les chanoines et l'évêque qui payent la cathédrale. Les offrandes, les dons des fidèles n'interviennent que pour des moments clés de la construction. Le démarrage, le redémarrage, l'achèvement de cette partie un petit peu dans l'urgence. Donc l'idée de la cathédrale bâtie par la générosité des fidèles, c'est aussi beaucoup une reconstruction du 19e siècle. À l'époque de Victor Hugo et de Viollet-le-Duc, de dire qu'elles n'étaient pas que des monuments de foi et qu'elles étaient aussi des monuments nationaux. Et donc, il fallait que le peuple y ait contribué. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais la part du clergé, historiquement, et du point de vue des comptes, c'est quand même eux qui ont financé l'essentiel.
C'est l'évêque qui tire ses revenus quand même du travail des paysans.
Oui, comme tout seigneur, comme tout financement à l'époque.
Pour en revenir au phénomène de l'émergence des cathédrales, Mathieu Lourse, quel est le contexte historique qui explique donc cette décision de construire ou non une cathédrale? C'est un phénomène urbain, l'essor économique qui explique l'essor du gothique?
Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la cathédrale est le fruit incontestable d'une mentalité d'urbain. Mais les financements proviennent des campagnes, puisque les bienfonds sont dans les campagnes. Les matériaux proviennent aussi des campagnes. La pierre, le verre, le bois, tout ça montre un rapport entre ville et campagne qui est un rapport d'échange. Parce que quand vous faites partie du lieu qui a été choisi pour fournir le bois et la pierre, vous allez vous enrichir aussi, parce que vous allez créer une dynamique économique. Donc, les cathédrales ont été rendues possibles parce qu'on est dans la suite de ce qui a commencé au XIe siècle. Ce grand essor économique qui commence au XIe, là, au XIIe et a fortiori au XIIIe, on a désormais les villes qui en profitent, les campagnes qui en profitent. Et donc, on a une civilisation qui souhaite manifester sa grandeur et qui souhaite manifester ce dont elle sait être redevable à Dieu par le sacrifice d'une partie de sa production au service de Dieu.
À partir du XIIe siècle, est-ce qu'on peut dire que les monastères n'ont plus l'exclusivité de la foi, qu'il y a un déplacement de la foi du monde monastique au monde des cathédrales, du roi, de l'évêque, de la ville?
Oui, c'est manifeste à ce moment-là que l'Occident n'évolue pas comme l'Orient. Les églises orientales, orthodoxes pour parler simplement, voient les moines rester aux commandes. Les évêques sont souvent des moines dans le monde orthodoxe. En Occident, il y a un pape au XIe siècle qui s'appelle Grégoire VII, qui lance une réforme de l'Église dont il fait les évêques, les chevilles ouvrières, donc le clergé séculier. Ce qui ne veut pas dire que les abbayes soient en reste. On a des abbatiales gothiques gigantesques qui sont construites en France, mais dans la plupart des cas, à la Révolution, elles ont été détruites. Donc ces abbatiales gothiques, on en a certaines qui ont survécu. Saint-Rémy de Reims, par exemple, mais beaucoup, comme celle de Royaumont, par exemple, ou celle de Clairvaux, ou même celle de Citeaux, ont été rasées à la Révolution. Donc aujourd'hui, notre vision est un petit peu biaisée parce que les cathédrales ont beaucoup mieux survécu.
La période donc du XIe au XIIIe siècle est aussi la période des croisades, de la chasse aux hérétiques, la croisade à Jérusalem, la chasse aux Juifs. Est-ce que tout ça est lié?
Oui, on a ce qu'on pourrait qualifier de raidissement idéologique aujourd'hui dans cet Occident du XIIIe siècle, c'est-à-dire que les monarchies et l'Église catholique souhaitent avoir beaucoup moins de personnes incontrôlables, ce qui veut dire un contrôle effectivement des croyances, un contrôle des pratiques et une sorte de repli exclusif sur les valeurs qui sont celles d'une certaine intransigeance religieuse. On a, par exemple, des moments d'antijudaïsme très violents en France au XIIIe siècle, avec des expulsions de la communauté juive. Et on note ce raidissement un petit peu partout. Les croisades entraînent aussi un mouvement de raidissement dans l'islam, avec des persécutions contre les chrétiens d'Orient. Donc on est dans un moment où les civilisations s'affirment sur des zones de frottement entre elles, les croisades et le djihad, et puis des zones à l'intérieur, on va s'en prendre finalement à ceux qui
sont hérétiques, ce qu'on appelle les hérétiques, les cathares.
Effectivement, les cathares dans le sud de la France, avec la croisade de 1209, puis aussi les vaudois dans le nord de l'Italie. Voilà, on a ce moment particulier dans l'histoire de l'Occident, qui accompagne aussi cette affirmation.
L'historien Georges Duby, grand médiéviste, disait que les cathédrales ont été un instrument de la répression catholique à cette époque.
Alors, je crois que Duby écrit aussi dans les années 70, où on est très marqué par les French Studies, et que c'est très anachronique de parler de répression catholique, parce que cette répression catholique, elle est demandée par les fidèles. On a dans le monde occidental une demande populaire pour le rejet. C'est ça qu'il faut bien imaginer. C'est pas l'Église qui impose cette vision à la société, c'est la société tout entière qui devient plus intolérante, malheureusement. Plus qu'une répression, c'est une difficulté à penser la civilisation comme une civilisation qui a des lieux de vie communes.
Ouais.
Ceci étant, on a quand même des lieux où cette répression est moins marquée que d'autres.
On a vu que le phénomène de l'art gothique a plus touché le nord-est de la France. Est-ce qu'il y a des régions de France ou d'Europe qui n'ont pas du tout de cathédrale gothique?
Non, le gothique s'est répandu partout. Mais il y a deux mouvements. D'abord, le mouvement du fait que le gothique d'Île-de-France se répande partout. Et puis une réponse du génie des régions qui vont proposer des gothiques qui sont une acclimatation du gothique. Vous allez voir la nef de la cathédrale de Toulouse, c'est un gothique qui n'a strictement rien à voir avec le gothique d'Île-de-France. Vous allez à Assise, en plein milieu de l'Italie, vous avez un gothique dans lequel les fenêtres ne sont pas très grandes parce qu'on a voulu que la fresque reste le moyen d'expression privilégié.
Merci Mathieu Lours. Dans le prochain épisode, nous parlerons des bâtisseurs de cathédrales, les tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, vitriers et autres ouvriers, le plus souvent anonymes, qui ont permis l'édification des cathédrales.